Voilà, chers frères et sœurs, c'est toujours beau d'avoir dans ce type de fête aussi les textes qui sont vraiment appropriés, qui sont ajustés à ce que le mystère veut célébrer, veut mettre en avant. Célébrer ainsi du coup l'œuvre de Dieu dans l'humanité à travers eh bien cette Église qu'il fonde et qu'il renouvelle chaque instant. Le texte de l'Évangile, je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté, mais je me souviens toujours, quand j'étais au début de mon séminaire, j'étais en paroisse dans la campagne derrière le Beaujolais. Et en fait, une fois, je parlais dans le catéchisme avec des enfants, et je dis aux enfants, est-ce qu'il y a des hommes qui n'ont jamais péché? Et un enfant qui me dit, oui, la Vierge Marie. Donc là, je me dis, c'est bien, elle est bien catholique. Et puis après, je lui dis, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui n'ont pas péché? Et j'espérais qu'ils disent Jésus, quoi. Et en fait, le nom de Jésus ne venait pas. Je lui dis, peut-être Jésus quand même. Et en fait, l'enfant qui me dit, non, on peut pas dire ça parce que il a chassé les marchands du temple avec un fouet et que c'est pas bien, enfin voilà. Et donc ça m'a interpellé parce que j'accueillais avant ça comme tranquillement entre guillemets ce texte, et lui il venait me dire attention, en fait si on lit vraiment ce texte là on voit que Jésus est en colère. Alors j'ai quand même fait comprendre que la colère de ses parents quand il fait des bêtises est plutôt une bonne colère, et que ça vaut le coup d'être en colère quand on fait des bêtises, et que c'est peut-être comme cela qu'on peut comprendre ce texte-là aussi, se dire il y a un enjeu que Jésus veut sauvegarder, et parce qu'il l'exprime aussi avec cette passion de colère que nous avons tous dans notre humanité et qui permet de rendre justice quand il le faut. Jésus veut rendre justice à la maison de Dieu, cette maison qui est la maison de son Père, cette maison qui est faite pour que soit élevée ainsi du coup des prières auprès de Dieu. Et il dit ne transformez pas cette maison qui est faite pour prier, pour s'élever vers Dieu, en entre guillemets gestion, en lieu de gestion simplement commerciale, en lieu entre guillemets où chacun trouve sa place à travers des relations simplement humaines. Cet appel, il ne s'est pas terminé, entre guillemets, en disant « maintenant qu'on fait plus de sacrifices de bêtes, c'est bon, on a réglé le problème ». Mais ça reste pour nous aussi, à mon avis, toujours une interpellation. Et de se dire, quand je viens ici à la messe, comment est-ce que je manifeste que ce n'est pas simplement en fait pour une vie fraternelle sympathique et joyeuse, mais que c'est pour louer Dieu. Je suis convaincu que si vous venez, c'est vraiment pour cela, pour pouvoir louer Dieu, être habité ainsi de sa présence. Mais comment est-ce qu'on le manifeste? Et c'est beau de se dire « ah oui, en effet, comment déjà on arrive un petit peu plus tôt à la messe, pour pouvoir avoir un temps avec Dieu, par exemple, c'est une façon par laquelle on peut le faire. Et puis aussi, tous ces moments où on peut échanger ensemble les uns avec les autres avant la messe, c'est bien. Mais d'avoir aussi chacun un temps de recueillement, parce que Dieu, c'est pas si évident que ça que de le rencontrer. Et il s'agit d'avoir un cœur aussi disposé ainsi à sa présence. Pour ceux qui viennent de l'extérieur, et il faut avoir conscience qu'il y en a de plus en plus qui viennent de l'extérieur, c'est aussi un signe par lequel ils se disent « ah oui, il y a ici quelque chose de mystérieux qui se passe » et ils peuvent à leur tour aussi entrer dans ce mystère, découvrir Dieu qui est présent et que l'on peut louer, adorer, aimer et servir et le recevoir. Célébrer Dieu, en effet, ensuite, cela vient rejaillir sur l'humanité, et c'est important aussi, des fois, de prendre conscience de cela, de dire, ah oui, le corps du Christ, c'est celui-là qui est le temple de Dieu, le corps du Christ, c'est sa chair, dit l'évangéliste, et en fait, on comprend cela quand en 3 jours, il va le relever, ah oui, en effet, c'est Dieu qui est présent, Dieu qui est loué à travers ce corps humain, et saint Paul dit, il faut aller plus loin encore, dans la deuxième lecture, il faut comprendre, en fait, que chacun d'entre nous, touché par la grâce, devient une pierre vivante de ce corps du Christ. Quand on regarde toutes les pierres qui constituent cette église, il faut se dire que chaque baptisé de notre paroisse, en fait, il a sa place incrustée entre guillemets dans ses murs, et que chaque fois que nous pouvons peut-être manquer entre guillemets à la présence, manquer à une juste vie chrétienne dans aussi l'amour du prochain, l'amour de Dieu, chaque fois en fait, c'est comme si la pierre s'enlève et ça met en fait en difficulté tout l'édifice. Et au contraire, chaque fois que nous pouvons servir cette église, servir ce corps du Christ dans lequel Dieu est adoré, loué, chaque fois en fait, nous pouvons ainsi l'embellir et le transformer. La grâce de Dieu, elle est vraiment source de vie pour l'humanité, et c'est pour ça qu'elle a besoin de sortir ensuite de ses murs pour pouvoir rayonner dans le monde, et vous êtes le premier moyen du rayonnement dans le monde de la grâce de Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, il faut vraiment imaginer concrètement ce que c'est que la Terre Sainte. Pour ceux qui y sont allés déjà, vous avez en image, à mon avis, tous ces lieux. Mais la description de Ézéchiel, elle est de partir de la colline de Jérusalem, et puis ensuite de se diriger vers Jéricho et vers la Mer Morte. Et quand on va à pied de Jéricho jusqu'à Jérusalem, c'est très éprouvant parce qu'il n'y a pas d'arbres hauts. C'est un peu un désert de montagne parce que il n'y a pas souvent de l'eau qui vient, quoi. Et puis ensuite, la Mer Morte, vous savez qu'elle est morte parce que aucune vie ni végétal ni animal ne peut subsister dans ces lieux salés, super salés, et qui brûlent toute vie possible dès qu'elle vient ici, quoi. Et en fait, Ézéchiel, sa vision, c'est que l'eau qui jaillit du côté du temple, elle va irriguer cette terre dure, aride, et elle va ensuite toucher cette eau qui ne peut porter la vie tellement elle est salée, tellement elle est ainsi du coup impropre à permettre à la vie d'exister, quoi. Notre humanité, elle est un peu pareille, en fait, c'est ça le parallèle qu'il s'agit de faire ensuite pour nous. Notre humanité, elle est aride, elle est sèche, et toutes les qualités humaines que Dieu a mises en nous ne peuvent trouver leur plein déploiement s'il n'y a pas d'abord l'eau de la grâce, l'eau du salut qui vient toucher cela. Et alors, en fait, vient exister ce qui est en germe présent. L'eau, elle vient toucher, dans la vision de Ézéchiel, des lieux qui étaient finalement déjà propres à pouvoir porter la vie, où il y avait déjà des graines, parce qu'on ne dit pas que la graine, elle vient du temple. La graine, elle était là, mais elle ne pouvait pas lever. Mais dès que l'eau jaillit, la graine monte et ainsi porte du fruit et tout le monde en profite. Voilà, de se dire, ah oui, en effet, dans l'humanité encore, Dieu continue à mettre des potentiels de bien, des potentiels de déploiement. Mais pour cela, il s'agit que la grâce de Dieu vienne toucher, voilà, toute cette humanité-là pour que ce potentiel trouve son plein déploiement. Et nous, nous avons à participer à cet ruissellement d'eau qui va toucher plus largement ensuite les personnes autour de nous et ainsi permettre que grandisse, voilà, ce corps du Christ et qu'ainsi, du coup, cette grâce vienne toucher plus largement. Alors que nous puissions contempler tout à l'heure dans l'Eucharistie le côté ouvert du Christ dans sa mort et sa résurrection. De ce côté ouvert jaillit l'eau de la grâce, le sang du Christ qui régénère, et que nous puissions le recevoir vraiment avec cœur pour ensuite le partager autour de nous. Qu'il y ait ce ruissellement vraiment de fécondité, voilà, ensuite qui puisse toucher toute l'humanité. Amen.